mode d'emploi.
Bonjour, vous êtes sur FPP 106.3 et c'est l'émission Mode d'emploi avec des militants d'attaque et des journalistes du PIAF.
Et nous recevons aujourd'hui un invité par téléphone, il s'agit de John Attias qui viendra nous parler de désobéissance fertile. Mais on commence par une première chronique, d'actualité bien sûr, avec Gaël.
Et le CETA. Le CETA, c'est l'accord de libre-échange entre l'Union Européenne et le Canada, dont on a déjà parlé ici, qui a été négocié dans la plus grande opacité de 2009 à 2014 et qui a été ratifié par le Parlement européen début 2017. Mais il doit être ratifié avant d'entrer en vigueur complètement par chaque État membre, c'est-à-dire par 38 parlements nationaux ou régionaux. En attendant, il est appliqué de manière provisoire, ce qui est d'ailleurs assez étonnant d'un point de vue juridique. Alors cet accord de libre-échange, il est dangereux pour plusieurs raisons. D'abord, comme beaucoup d'accords de libre-échange, il menace l'agriculture. En supprimant les droits de douane sur plusieurs produits agricoles, il déstabilise des filières fragiles. D'autant plus que l'agriculture française va se retrouver en concurrence avec une agro-industrie canadienne dont les normes sont plus laxistes. Par exemple, au Canada, on peut nourrir ses bovins avec du maïs OGM et avec des farines animales. Et de manière générale, c'est l'ensemble des normes sanitaires et environnementales qui est menacé, puisque le CETA prévoit un organe de coopération réglementaire pour harmoniser les normes entre le Canada et l'Union européenne. Et dans cet organe siégeront à la fois des politiques, mais aussi le lobby industriel qui pourra donner son avis sur les différentes normes. Car c'est un accord qui est taillé sur mesure pour les multinationales, avec par exemple un mécanisme de règlement des différends. Alors l'idée c'est la suivante, quand un investisseur investit dans un endroit, il s'attend à un certain profit, et donc si l'État dans lequel il a investi crée une norme, une règle, une loi sociale, environnementale, sanitaire, qui perturbe ses profits, eh bien, l'investisseur en question peut porter plainte contre l'État. Et c'est des choses qui existent déjà. Par exemple, le Mexique a essayé d'instaurer une taxe sur les sodas pour des raisons de santé publique. Eh bien, il a été aussitôt attaqué par Cargill, une grosse multinationale américaine de l'agroalimentaire, au nom de l'ALENA, l'accord de libre-échange d'Amérique du Nord, qui considérait que cette taxe sur les sodas menaçait les profits que Cargill escomptait en s'installant au Mexique. Et donc le Mexique a dû verser 80 millions d'euros de dédommagement à Cargill. Une autre raison de s'opposer au CETA, c'est que c'est un accord climaticide qui est complètement en contradiction avec les discours écolos de Macron. Non seulement la multiplication des échanges de biens va augmenter l'émission de CO2, mais en plus, un des objectifs de cet accord, c'est d'exporter le pétrole canadien, qui est un des plus sales du monde, puisqu'il est issu des sables bitumineux. La Chambre des communes du Canada a décrété récemment l'état d'urgence climatique. Et au même moment, Justin Trudeau, le Premier ministre, a autorisé l'allongement de l'oléoduc Trans Mountain en prévision des exportations vers l'Europe. Et cette extension de l'oléoduc devrait permettre de tripler la capacité d'extraction des sables bitumineux de l'Alberta. Le gouvernement français a tenté de faire croire qu'il pouvait imposer un veto climatique au Canada. En fait, ce veto climatique dont le gouvernement a beaucoup parlé, c'est du vent. Il n'y a absolument rien de contraignant du point de vue écologique. La seule chose contraignante, c'est l'accord, c'est le contenu du CETA, qui place le commerce et le droit des multinationales au-dessus de tout. Alors, faut-il se suicider tout de suite ou plus tard? Je préconiserais d'attendre un petit peu, puisque, comme je l'ai dit, le CETA doit être ratifié par 38 parlements nationaux ou régionaux pour entrer pleinement en application. La plupart des autres pays européens l'ont ratifié sans trop d'opposition, sauf l'Italie. Et en France, l'Assemblée nationale doit le ratifier le 17 juillet. Plusieurs députés ont demandé un vote solennel, avec discussion, vote public, Mais non, finalement, ce sera un vote en catimini, un soir, quand tout le monde est en vacances. Il y a visiblement une volonté du gouvernement de ne pas faire trop de pub autour de cet accord, surtout au moment où le projet d'accord avec le Mercosur rassemble tout le monde contre lui. Et rien n'est joué, parce qu'il y a en France des dizaines de comités Stop CETA qui sont actifs depuis plusieurs années, et la campagne a repris ces derniers temps, avec des interpellations de députés, des rassemblements devant les permanences, des remises de cartes Stop CETA signées par les citoyens, des opérations d'information sur les marchés. Et vous pouvez vous aussi interpeller votre député. C'est très simple, il suffit d'aller sur le site stop-ceta.fr. Et là, en quelques clics, vous choisissez un ou plusieurs députés, vous entrez votre nom, votre adresse, et ça envoie automatiquement un mail au député que vous avez choisi. Et aujourd'hui, il y a déjà 130 000 messages qui ont été envoyés aux députés français. Le point d'orgue de tout ça, ce sera un rendez-vous mardi prochain, le 16 juillet, entre 17h et 20h, devant l'Assemblée nationale, sur la place Édouard Herriot, pour faire du bruit, rappeler aux députés qu'il ne faut surtout pas voter le CETA. Juste un petit mot d'espoir qui vient du Sud. La Tunisie a tout récemment décidé de suspendre ses négociations sur l'ALECA. L'ALECA, c'est l'accord de libre-échange entre la Tunisie et l'Union européenne, dont on a parlé la dernière fois, je crois, et qui est extrêmement dangereux pour déstabilisateur pour l'agriculture tunisienne. La société civile tunisienne s'est fortement mobilisée contre l'ALECA, et finalement, elle a été entendue par ses gouvernants, qui ont décidé de suspendre les négociations.
Et c'est l'actualité brûlante, vu que ce texte avec le CETA au Canada, c'est vraiment, tous les journaux en parlent, mais bizarrement, pas le gouvernement. C'est magique. Alors, ben, pour cela, il faut se battre et peut-être que la jeunesse se lève. Jeunesse, lève-toi, 16.
Comme un éclat de rire vient consoler tristesse, comme un souffle à venir vient raviver les princes.
Bonjour, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 et c'est toujours Mode d'emploi.
Et nous recevrons bientôt Jonathan Attias de l'association Désobéissance Fertile qui va nous parler de comment reconquérir les forêts. Mais on est toujours dans les chroniques d'actualité et d'habitude c'est les chroniques de JMJ, mais JMJ n'est pas là, mais il nous a laissé deux choses. D'abord une merveilleuse blague et ensuite cinq chroniques. Alors sa blague là voilà, c'est évidemment pour tous les enseignants, quand Macron parle des profs qui prennent les élèves en otage, ce n'est pas pour instrumentaliser les bacheliers, c'est pour appeler au secours, car cela fait plus de 20 ans. Qu'il est retenu en otage par sa prof de français. Alors on rigole silencieusement à l'humour de Jean-Marc, mais on écoute précieusement sa première chronique qui nous parle du grand refroidissement.
Oui, le grand refroidissement. Ce titre peut surprendre entre deux canicules et au milieu du drame planétaire que le réchauffement climatique. Il s'agit ici d'un froid moral, historique et politique, car depuis quelques années, et ce n'est que logique, les rares survivants nonagénaires et centenaires de la Shoah, les anciens résistants, les témoins de la guerre, disparaissent les uns après les autres. Ces disparitions n'ont rien d'anormal, mais elles interviennent alors que l'Europe et le monde connaissent une recrudescence de la peste brune, y compris en Allemagne, qui vient de connaître son premier assassinat fait par l'extrême droite depuis la guerre, tandis que des députés de l'AFD rentraient au Parlement. En Pologne, en Hongrie, en Italie, en Autriche, au Brésil, des gouvernements de droite ou de droite alliés à l'extrême droite ont existé ces dernières années, sans oublier la France, où la famille Le Pen continue de tenir le haut du pavé. Cela faisait des décennies que nous disions qu'il est encore fécond le ventre de la bête immonde. Mais cette fois, nous voyons les premiers rejetons ignobles pointer leur trogne dégoûtante. Alors le défi est énorme pour nous, comme pour nos enfants. Combattre en même temps les deux maux qui nous rongent aujourd'hui, la catastrophe climatique et la catastrophe politique. Un terrible chaud et froid.
Après ce grand refroidissement, Jean-Marc va se tourner vers les élections, il n'y a pas bien longtemps, en Grèce, qui ont vu le retour de la droite face à, je sais plus trop, la couleur du politique précédente.
Conservatoire. Ah, tu veux dire celle de Tsipras?
Celle de Tsipras.
Ah ben on est passé du rouge au rose, au rose pâle.
Peut-être finalement pas un si grand changement politique, c'est peut-être ce que Jean-Marc va nous expliquer.
La Grèce a désigné par les urnes une nouvelle majorité dimanche. Tsipras, qui avait été l'espoir d'un peuple martyrisé par la finance et l'Union européenne, a logiquement déçu en renonçant très rapidement à son ambitieux programme électoral. La démission du ministre Varoufakis en avait été le symbole. Pour se lancer dans un entre-deux social-démocrate très béni oui-oui vis-à-vis des exigences des banques comme de l'Union. Celui qui voulait rendre leur dignité aux Grecs restera plutôt dans l'histoire comme celui qui leur aura fourni un énorme pot de vaseline. Pas de larmes donc pour Tsipras, mais des larmes toujours et encore pour les Grecs qui viennent d'élire, non par adhésion, mais par réaction, le candidat réactionnaire Mitsotakis, lequel est, comme par hasard, fils d'un ancien premier ministre, frère d'ancien ministre, oncle du nouveau maire d'Athènes, et qui est lié, pour faire bonne mesure, aux milieux économiques. Ce charmant monsieur entend, pour améliorer la situation des Grecs, accélérer les privatisations, baisser les impôts, limiter l'accès de la Grèce aux étrangers, ce qui est sans doute fait pour siphonner les suffrages de l'extrême droite d'aube dorée, un programme de rêve donc, qui n'a pas fini de ravager une Grèce fragile et convalescente, et qui aura les mêmes effets que partout ailleurs, des riches plus riches, des pauvres plus nombreux, la masse précarisée et la montée de l'extrême droite, des lendemains qui chantent, quoi, ce qui n'est pas très étonnant en ayant élu un triste sire, Taki.
Ah, ah, ah. Alors on continue sur les blagues de Jean-Marc, on revient vers l'actualité francophone, enfin l'actualité sportive, mais racontée par notre cher président.
Le président des riches, pardon, des très riches, n'en finit pas de faire de la com, ce qui est normal puisqu'il doit son poste et son maintien en poste à cette même com. À l'occasion de la Coupe du Monde de foot féminine, on aurait pu espérer que la défaite de la France en quart de finale allait nous épargner une nouvelle logorée jupitérienne. Que nenni ! Radio et télé ont tout eu droit aux pensées profondes de Macron Ier sur le sport, qu'il connaît tout aussi bien que tout autre sujet, n'est-il pas omniscient ? Par contre, toujours rien sur General Electric, comme c'est étrange. Bref, le président aime beaucoup s'écouter parler, et pense profondre la moindre de ses pensées. Heureusement qu'il n'a jamais dû faire les courses, sinon il aurait réservé le 20h pour nous lire la liste. Mais si le fait d'avoir un président égocentré, emphatique, quelque peu ridicule et plus que bavard est déjà un problème en soi, le véritable souci est d'avoir des journalistes et des organes de presse qui acceptent de mobiliser des dizaines de minutes d'antenne pour débiter et répéter les lieux communs élyséens, pendant que ces mêmes organes d'information, ou plutôt de désinformation, ne parlent pas, ou fort peu, du CETA, du TAFTA, de l'EPR, du Triangle du Gonesse et autres sujets autrement importants que les coulées cérébrales de la marionnette du CAC 40.
On va rester dans l'actualité de ces beaux messieurs de la télévision pour parler d'un homme bien télégénique et qui s'appelait ou qui s'appelle encore Tapi.
La France vient de fêter l'anniversaire de la danse du tapis. Et non, pas la charmante danse tellement intellectuelle des années 70. Non, il s'agit de la danse du Bernard Tapi qui, elle, n'a que 25 ans. La justice française est indépendante. On se tue à vous le répéter, que diable ! Et c'est en toute indépendance que Chirac finira ses jours sans être inquiété, que Guérini court toujours, il envisage même de se présenter aux prochaines municipales, que Sarko peut tranquillement sortir son livre, que Christine Lagarde, après le FMI, va rejoindre la Banque Centrale Européenne, et que, donc, Bernard Tapie, pourtant condamné à rembourser, est déclaré pénalement innocent. Ça rappelle d'ailleurs un petit peu le fameux responsable mais pas coupable d'une autre affaire célèbre. Pendant ce temps-là, des milliers de gilets jaunes ont écopé d'amendes et de peines de prison, avec ou sans sursis, sur des dossiers souvent montés à la hussarde et à charge par une marée chaussée survoltée par les événements. Cherchez l'erreur.
Alors, nous écoutons Jean-Marc du fond de son sous-marin atomique qui vient d'être lancé ce matin, je pense, pour avoir un son pareil. Mais il va quand même revenir sur quelque chose de bien plus triste, ce sont les violences faites aux femmes.
Pendant que Marlène Schiappa, l'insupportable ministre, fait de la com, c'est tout ce qu'elle sait faire d'ailleurs, les statistiques continuent d'être répugnantes concernant les femmes et leur devenir en France et dans le monde. Une femme sur trois a déjà été victime de violences dans le monde. En France, une femme décède tous les 3 jours sous les coups de son conjoint ou de son compagnon. 40% des cas de violence conjugale débutent lors de la première grossesse. 7% des femmes seront victimes d'un viol au cours de leur vie. 86% des viols ou tentatives sont perpétrés par des proches. 720 millions de filles sont victimes de mariages précoces. Près de 130 millions de femmes ont été victimes d'excision. Le carnage continue et pendant ce temps-là, les hommes politiques font de la com, c'est bien triste.
Et on remercie Jean-Marc qui nous faisait non pas un message de son sous-marin, mais de Normandie pour une dernière visite normande peut-être. Et nous continuons avec l'actualité. L'actualité de cette fin d'année, c'était, je crois, quelque chose autour du bac. Je m'en rappelle plus, une grève. Enfin, c'est Alex qui va nous parler de son ministre préféré.
Blanquer. Voilà, mais oui, il s'est passé quelque chose là autour du bac. Bon, je ne vais pas m'étendre longuement. Je vais plutôt écouter les paroles du ministre de l'Éducation nationale. Paroles d'apaisement. Il a dit, je cite, aujourd'hui même d'ailleurs, « L'incident est clos. » Donc l'incident est clos selon Blanquer. Voilà. Les copies ont été rendues, les élèves ont eu leurs notes. Les coupables, ces profs irresponsables qui ont pris en otage les copies des élèves, seront punis. Tout va bien. D'ailleurs, l'image est assez savoureuse. Vous imaginez des profs, le visage caché sous des cagoules, réunis dans des comités révolutionnaires clandestins, des kalachnikovs à leurs pieds, en train de brandir les copies de leurs élèves. Voilà. Mais est-ce que c'est vraiment seulement un incident? Le choix des mots, il a du sens. Parce qu'un mouvement de rétention des notes de cette ampleur, c'est pas arrivé depuis 1948. Et même si le mouvement est très minoritaire, il est largement soutenu parmi les profs. Pour la première fois, on voit une opposition nette à la grande réforme Blanquer. Alors bah du coup, la question que je me suis posée, c'est pourquoi ? Pourquoi ils font ça, les profs ? Pourquoi ce refus ? Après tout, il y a un malaise dans l'éducation nationale. Les inégalités scolaires sont criantes. Dans certaines disciplines, on a un problème pour recruter. Il y a un problème de vocation. Et il semblerait que le niveau baisse. Il semblerait. Avant, on disait, puis on pensait que c'était pas sérieux. Puis maintenant, il y a PISA. Et apparemment, le niveau, il baisse vraiment. Donc, visiblement, on a besoin d'une réforme. Alors, pourquoi on s'acharne sur ce pauvre Blanquer qui essaye, justement, lui, de réformer ? Problème. Et c'est tout le problème, c'est de savoir quelle réforme, quel modèle il faut choisir. Et là, je vais prendre un peu de recul et revenir pas mal en arrière. Jusque dans les années 50-60, on pourrait même dire jusque dans les années 1980, la question elle se posait même pas. La question elle se posait même pas, le système français c'était le modèle. C'était un modèle mondial, réputé, depuis le 19e siècle. Il y avait la capacité, ce qu'on attendait d'un modèle scolaire, d'un système scolaire à l'époque, une capacité à fabriquer une élite. Et en France, particulièrement bien formée, cette élite. Mais au cours des Trente Glorieuses, on a ouvert le système, on a changé, et parce que les entreprises avaient besoin, et ont toujours besoin, d'une main-d'œuvre formée. Pas seulement d'ingénieurs, elle a aussi besoin de techniciens, de petits cadres, de commerciaux, de gestionnaires, de toutes ces personnes qualifiées de niveau intermédiaire. Et donc on a besoin d'un système qui est démocratisé, massifié. Et là, le système français s'est révélé relativement inefficace. Le niveau moyen est très moyen, ce que nous montre PISA, et surtout, les inégalités scolaires sont énormes, massives. Le système a conservé sa capacité à produire de l'élite. Donc les bons élèves sont particulièrement bons en France, et les mauvais élèves sont particulièrement mauvais. Et en plus, et c'est là que ça prend un double sens, ces inégalités scolaires, c'est aussi des inégalités sociales, ces mauvais élèves ils viennent en général de milieux défavorisés. Donc la massification scolaire, sans mixité scolaire ou sociale, a produit le contraire d'une démocratisation scolaire. Tout le monde va dans la même école, mais pas du tout pour obtenir les mêmes résultats. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Au niveau mondial, si on examine les résultats de PISA, il y a trois modèles qui ressortent assez clairement. Et il y a le modèle asiatique, qu'on pourrait appeler aussi le modèle conservateur. C'est une forte discipline dans les classes, ça bouge pas, compétition importante entre les élèves, et recours presque systématique à des cours privés en parallèle de l'école. Alors, système dont on n'a jamais voulu en France, et qui fait peur pour des raisons assez évidentes, mais qui produit d'excellents résultats. Si vous prenez les résultats PISA, premier Singapour, deuxième Japon, quatrième Taïwan, voilà, et la Chine commence à bien se placer maintenant. Il y a un autre modèle, alors lui qui est un peu plus de gauche, modèle finlandais ou social-démocrate. Donc là, c'est des pédagogies innovantes, pas de redoublement dans les classes, des profs formés pour être justement des experts de la pédagogie, des profs tuteurs qui viennent aider les élèves les plus en difficulté. Ce système-là, non seulement est efficace, la Finlande se classe en général dans les 2-3 premiers ou 3-4 premiers dans le monde, mais en plus, il est le moins inégalitaire du monde. Alors évidemment, il faut nuancer un peu ça, parce qu'il se trouve que la Finlande est une société particulièrement peu inégalitaire, particulièrement égalitaire, et qu'il y a un lien entre le fait que ce soit une société égalitaire et que son système soit plutôt égalitaire. Et puis il y a le modèle qui a le vent en poupe. C'est le modèle anglo-saxon. Donc États-Unis, Angleterre, Australie, Canada. Les élèves ont le choix. Les pédagogies sont innovantes. Et tout le monde est plongé dans une forte concurrence. Il y a une concurrence entre les élèves, mais il y a une concurrence entre les établissements, il y a une concurrence entre les profs. Et les résultats, sauf au Canada, sont nettement moins brillants qu'en Asie ou dans les pays scandinaves. Même assez proches de ceux de la France dans certains domaines. Et la réforme Blanquer, elle s'inspire un peu du modèle finlandais pour la bienveillance et pour la rhétorique. Et beaucoup du modèle anglo-saxon pour la réalité. Donc avec la réforme, on va avoir un nouveau bac qui va se réduire, le vrai bac entre guillemets va se réduire à 3 épreuves, dont un grand oral, très inspiré de ce qui se fait à Sciences Po, dont on imagine volontiers qu'il va valoriser les codes culturels socialement hérités que les élèves provenant de milieux défavorisés, bizarrement, maîtrisent particulièrement mal. Le reste sera du contrôle continu, ce qui va mettre les professeurs dans une situation un petit peu complexe vis-à-vis de leurs élèves. Et les élèves font en seconde, puisque ça a déjà commencé, les choix de spécialité qui vont fortement déterminer leurs possibilités d'orientation ultérieure. Mais ils sont libres. C'est ce que Blanquer appelle l'école de la confiance. Libres de leur choix d'orientation, en partie libres de leur choix d'établissement. Libres de réussir ou de ne pas réussir. Libres d'avoir du mérite ou de ne pas en avoir. À l'évidence, ça ne va pas régler les problèmes d'inégalité sociale. Mais l'enjeu, il n'est pas là. Il s'agit avant tout de rendre le système efficient. Une autre idée de l'efficacité. Non seulement il faut que le système soit efficace, mais il ne faut pas qu'il coûte trop cher. Et avec la réforme Blanquer, on va pouvoir progressivement diminuer les coûts du lycée. Parce que, évidemment, Blanquer s'appuie sur des statistiques qui existent et qui montrent que la France dépense beaucoup pour ses élèves de manière générale. Une proportion du PIB relativement plus élevée que les autres pays. Alors, en général, quand on montre ça, on oublie de dire que aussi en France, on a plus d'élèves qu'ailleurs par rapport à la population. Plus qu'en Allemagne, plus que dans les pays scandinaves, plus qu'en Angleterre, à cause d'une démographie assez positive, assez dynamique. Et on oublie aussi de regarder la dépense par élève. Et quand on regarde la dépense par élève, on se rend compte que dans le primaire, on dépense particulièrement peu en France, qu'au collège, on dépense pas énormément. Au lycée, on dépense plutôt au-dessus de la moyenne, mais la réforme, justement, Blanquer, va permettre de diminuer les coûts du lycée et va permettre de rendre le système ni plus juste, ni plus efficace, mais plus efficient.
C'est-à-dire moins cher.
Exactement.
Alors nous allons maintenant changer de sujet, nous allons parler de la forêt, et pour parler de la forêt, nous allons écouter, bien sûr, The Cure, Forest.
Et après cette cure, on se retrouve sur Fréquence Paris Pluriel pour l'émission Mode d'emploi.
Et nous avons au téléphone notre invité, Jonathan Attias. Bonjour Jonathan.
Bonjour Pierre.
Alors nous allons parler avec toi de Désobéissance Fertile. C'est une association, c'est un site web. Enfin, tu vas nous raconter un petit peu pourquoi il faut défendre la forêt.
Tout à fait, ouais. Je me lance ?
Mais bien sûr.
Ok, super. Effectivement, donc c'est un mouvement, la désobéissance fertile, et l'objectif, c'est de permettre à toutes les personnes qui le souhaitent de pouvoir vivre dans la nature à partir du moment où elles en émettent le souhait. Et parce qu'on s'aperçoit bien aujourd'hui que les lois ne le permettent pas, voire pire même, qu'elles sont hyper contraignantes pour celles et ceux qui veulent vivre en nature. Et pourtant, on est face à une urgence énorme en termes d'écologie et pour repenser assez radicalement nos modes de vie. Et nous, ce qu'on souhaite faire aujourd'hui, c'est créer ces nouvelles formes de société qui s'intègrent avec les écosystèmes vivants, parce qu'en Occident, on n'a encore jamais répondu encore à ce genre de contraintes, j'ai envie de dire entre guillemets, mais de défis en fait. Et c'est tout l'idée, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est non pas de voir la nature comme une ressource, comme ce qu'on a fait depuis tout ce temps et qui a en fait détruit tout notre habitat naturel, mais qu'on s'intègre en fait dedans et c'est ce qu'on essaie de mettre en pratique au quotidien nous-mêmes, parce qu'on habite dans des cabanes dans la forêt qu'on construit nous-mêmes, mais aussi bah, permettre à toutes celles et ceux déjà qui vivaient auparavant de cette façon-là, parce qu'en fait, nous, on n'invente rien dans le mode de vie. Il y a des milliers de personnes qui vivent de cette façon-là, mais qui vivent sous les radars aujourd'hui. Et simplement, c'est l'idée de se dire, ne nous cachons plus et constituons-nous comme une force, finalement. Montrons cette volonté pour que plus personne n'ait peur de vivre de cette façon-là. Voilà, c'est tout l'enjeu, en fait, de la désobéissance fertile. C'est de créer ces sociétés un peu entre guillemets qui font un pas de côté vis-à-vis des sociétés qu'on connaît nous, plus consuméristes, plus capitalistes qu'on a aujourd'hui quoi.
Alors il y a aussi un vrai combat écologique comme tu dis, c'est-à-dire défendre la forêt avec des chiffres terrifiants, 29,4 Exactement. Millions d'hectares de forêt disparus en 2017.
Voilà, c'est une vraie catastrophe. Moi j'avais aussi d'autres chiffres qui faisait état de la destruction de l'équivalent d'un terrain de foot, parce que finalement on a besoin de voir les choses pour s'en rendre compte. C'est 50 terrains de foot par minute, donc presque un terrain de foot chaque seconde, donc une surface énorme qui est détruite. Et en France, nous, dans la région dans laquelle on est, le Limousin, on n'est absolument pas épargné par tout ça, parce que on a du chêne et on a une déforestation, un dessouchage qui est énorme, qui représente l'équivalent de 1 million à 2 millions de mètres carrés dans notre région. Et donc, on est en plus face à une filière qui se vante aujourd'hui de son efficacité par rapport à la destruction de la forêt et qui donne en fait à travers des campagnes très agressives de communication l'illusion qu'on a plus de forêt qu'on en avait. Alors en fait, nous, en tant que qu'habitants, comme citoyens, on se rend pas compte, on se dit que on sait pas sur quel pied danser. Et c'est parce que là, il y a une grosse distinction à faire que tu dois savoir certainement, c'est que aujourd'hui il y a une très grosse exploitation forestière en France. C'est-à-dire que plus de la moitié des forêts françaises, elles sont cultivées en monoculture. On appelle ça des peuplements monospécifiques. Donc sur ces forêts, on met aussi toutes sortes de traitements chimiques, les pesticides, insecticides, fongicides, enfin tous les cides horribles qu'on connaît. Et d'ailleurs, si on va se promener dans ces forêts-là, tu vois, là où on entend des petits oiseaux, des insectes, on entend de la vie. Eh ben on n'entend absolument rien parce qu'on ne peut pas vivre en fait dans ces conditions-là et donc c'est appelé à tort des forêts alors qu'en fait ça épuise et ça détruit toutes les espèces qui vivent ou qui aspirent à vivre de cette façon-là.
Et c'est un mouvement mondial d'attaque contre la forêt, destruction de l'habitat des animaux et même disparition de pas mal d'espèces. Il y a même un mouvement global qui s'appelle Global Forest Watch qui essaye, comme toi tu nous le fais là à l'antenne, d'alerter tout le monde.
Tout à fait, tout à fait. Et en fait, l'enjeu, il est souvent, quand on discute de ces enjeux de forêt, on se retrouve sur des détails assez techniques, savoir la forêt, si c'est un puits de carbone, si c'est un rôle de gardien de biodiversité et tout ça. Et on en oublie en fait tout le lien qu'on a auprès d'elle en fait, parce qu'il y a un lien hyper fort en fait qui devrait nous nouer avec la forêt, qui n'est pas seulement un lien technique par rapport à l'absorption de carbone. Et en fait tout le risque, tout le danger à travers ces outils-là aussi, comme Global Forest Watch et les autres, c'est que on reste sur un truc hyper déconnecté de la forêt. Et nous c'est ce pourquoi on milite, c'est vraiment si l'idée c'est d'apprendre à vivre avec la forêt, c'est vraiment pour comprendre ses cycles, pour comprendre tout ce qui la régule et la manière avec laquelle on peut au mieux nous intégrer à l'intérieur. Voilà, faut qu'on apprenne cruellement à vivre de cette façon-là, en fait.
Encore plus que alerter, c'est la défendre activement.
Exactement.
Et avec une idée centrale de votre combat, c'est rachetons les forêts.
Exactement, exactement. C'est que aujourd'hui, donc comme je disais, il y a la moitié des forêts françaises qui sont un peuplement monospécifique, donc d'exploitation forestière, j'appelle pas ça de la forêt, et il y a que 16% de forêts qui, elles, sont à peuplement multispécifique. C'est-à-dire que 16%, c'est rien du tout. Et aujourd'hui, on le sait en plus, l'ONF est en train de céder ces parcelles-là à des industriels. Et en fait, nous, ce qu'on doit faire, c'est, dans un premier temps, préserver ce qu'il y a de préservable par rapport à ces forêts-là, qui, elles, continuent à héberger énormément de vie. Et donc, on incite les gens à racheter massivement des forêts, sortir cet argent des banques, parce qu'aujourd'hui, une forêt, ça coûte pas cher, c'est 3 000 à 4 000 euros l'hectare, et puis on peut la laisser vivre de cette façon-là et sécuriser, en fait, ces parcelles-là. Donc, à travers l'association qu'on met en place, on a un site internet qui s'appelle désobéissancefertile.com, tout attaché, on peut soit voir la façon la plus appropriée pour acheter des forêts, c'est évidemment le bouche à oreille, c'est contacter son notaire du coin, parce que les notaires ben, ils ont bien connaissance de toutes ces parcelles de forêt qui peuvent être mises à disposition. Ou sinon, c'est de faire un don à l'association, parce que chaque don qui est fait pour nous, on s'assure que la moitié des montants soit directement investi dans des rachats de parcelles de forêt ou de terres agricoles. Parce que le deuxième appel qu'on va lancer là très prochainement, c'est justement toutes ces terres agricoles qu'on a rendues stériles à force de les épuiser au travers des produits chimiques qu'on a mis dedans et des rendements qu'on a espérés de cette terre. Et donc, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est d'agrader ces terres-là, donc que ces terres agricoles, on puisse mettre du compost dessus, qu'on puisse mettre de la matière organique et planter des arbres pour redonner, recréer de nouveaux espaces en fait de forêt à terme. Et je pense que c'est aussi intéressant, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un aspect préservation, mais il y a aussi tout un enjeu pour, puisque ça ne va pas suffire en fait les quelques forêts qu'on a de cette façon-là, c'est aussi redonner vie en fait à nos espaces plus globalement, voilà. On parle vraiment de la vie contre la mort en fait dans tous ces enjeux. Faut même bien les resituer.
Pour redonner un peu d'envie aux Parisiens qui nous écoutent, le prix au mètre carré de la forêt, c'est 40 centimes le mètre carré.
Exactement, c'est pas cher du tout.
C'est un petit peu moins que le 7e arrondissement, je crois.
Ouais, légèrement. Et en plus de ça, c'est intéressant que tu parles de la ville, parce que nous, on vient de la ville, en fait. On n'est pas du tout des habitants de la forêt, traditionnellement. Et on n'a pas pour ambition de nous couper, en fait, de toutes les personnes qui habitent en ville. Et c'est la raison pour laquelle aussi on met en place cette plateforme de désobéissancefertile.com, parce que dessus, toutes les personnes qui ont acheté un terrain ou qui ont hérité d'un terrain peuvent le mettre librement à disposition de toutes les autres personnes qui, elles, ont des projets collectifs mais pas les moyens financiers pour les réaliser. Et donc, aujourd'hui, on habite à Paris et on a un petit, un peu d'argent de côté. Et ben on le sort des banques. Déjà, c'est la base de sortir cet argent des banques. Et puis, on peut racheter une petite parcelle d'un hectare, deux hectares et on la met à disposition d'un collectif. Et nous, en contrepartie, on peut bénéficier des avantages de ce terrain-là qui ont été mis en place par le collectif comme un habitant normal. C'est comme une contrepartie, finalement. C'est que nous, la mise en place qu'on va faire, c'est que les terrains sont donnés le plus possible pour que des projets de désobéissance fertile et des gens s'installent en forêt le plus possible, mais qu'en contrepartie, les personnes qui aient mis à disposition ces terrains-là, ils puissent aussi profiter des avantages de la vie dans cette forêt, qu'ils n'en soient pas non plus, eux, dépossédés. Et en fait, c'est sortir complètement de ce rapport à la propriété dans lequel on est. C'est pour ça que on suggère entre les personnes de mettre en place des prêts à usage ou ce qu'on appelle des baux emphytéotiques, qui sont des contrats de location longue durée pour 1 euro symbolique qu'on fait. Et toutes ces matrices-là, elles sont sur le site internet, parce que je vais un peu vite et j'ai beaucoup de choses à dire. Il y a une page qui s'intitule « Comment s'installer ?» Et dessus, il y a un modèle de bail emphytéotique type, pour que les personnes qui détiennent des terrains puissent avoir une espèce de contrat avec celles qui ont des projets et qui se rencontrent. Voilà, il y a déjà des dizaines et des dizaines de projets de cette façon-là qui fleurissent. Et tout l'enjeu est de dire, on n'a pas besoin d'être riche pour vivre de cette façon-là. Et à l'inverse, si on gagne mieux sa vie, on peut aider toutes ces personnes-là, même si on n'y habite pas au quotidien. Et nous, par exemple, dans notre forêt, on n'a pas de boîte aux lettres traditionnellement. Donc, on a sympathisé avec les gens de la Poste, qui sont d'ailleurs adorables, et on leur a expliqué toute la démarche philosophique dans laquelle on est de vivre, parce que moi, j'ai une femme avec deux filles, et on habite tous dans notre cabane dans la forêt, et je leur ai demandé qu'ils puissent nous apporter le courrier. Et donc, même si on n'a pas officiellement de boîte aux lettres, ils jouent le jeu, ils nous apportent notre courrier, ils nous le donnent, c'est-à-dire qu'ils nous reconnaissent. Ils nous donnent cette reconnaissance-là à travers ça. Même chose chez le dentiste, parce qu'on habite en collectif. Il y a l'un d'entre nous qui a eu un problème de dents il n'y a pas longtemps et il n'a plus du tout de sécurité sociale ni quoi que ce soit. Et la dentiste connaissant, il n'a plus de sécurité sociale de son propre choix, en fait, aussi, je tiens à préciser. Et donc, c'était une opération assez coûteuse qu'il avait à ce moment-là. La dentiste lui a dit, écoute, donne-moi ce que tu veux parce que je sais ce que tu fais et je veux te soutenir. Et en fait, on a besoin de complicité dans tous les corps de métier, dans tous les statuts quels qu'ils soient. Voilà, c'est-à-dire que même si on ne le vit pas au quotidien, parce que évidemment, c'est hyper engageant de vivre dans la forêt, et je pourrais parler des heures de notre quotidien, mais on peut à tout moment s'inscrire et aider toutes ces personnes-là, s'inscrire dans cette philosophie. Et je pense que c'est hyper important de le dire pour ne pas qu'il y ait justement quelque chose de désincarné par rapport aux personnes qui en ville se sentent trop loin de cette philosophie-là.
Donc d'un côté, vous construisez une vie dans la forêt, une autre vie sociale. Sur la page Comment s'installer, il n'y a pas que des bails emphytéotiques, il y a aussi des idées de poésie, des idées de comment construire sa maison. Les photos sur votre site web ou même sur votre page personnelle à toi et ton épouse, c'est une maison qui peut faire rêver ceux qui adorent Tolkien et les maisons des Hobbits.
il y a un univers hyper poétique, et t'as raison de le souligner, parce que je pense que s'il y a un changement profond qui doit s'opérer, c'est pas par la raison et par les chiffres, c'est vraiment par le cœur et l'émotion. C'est par la beauté, en fait. Et nous, l'univers dans lequel on est, il est vraiment très beau. Et on prend beaucoup, on prend vraiment soin à en préserver tous ces espaces, à mettre des belles sculptures, parce que évidemment, nous, on veut prendre plaisir à vivre de cette façon-là. C'est absolument pas une contrainte. Et d'ailleurs, dans la charte de valeurs, qui est assez, hyper large, il y a cet aspect-là, effectivement, de poésie, de faire en sorte que chacun des lieux qui se revendiqueront de la désobéissance fertile, et eh ben, s'intègre dans une notion de beau, même si elle est hyper subjective, mais cet esthétisme vis-à-vis de la nature, parce que la nature, elle est sublime, en fait, quand on la contemple. Et bah que nous aussi on s'intègre dans ce sublime-là en le retravaillant.
Alors évidemment tout le monde pense à tous les problèmes techniques, comment avoir une école pour ses enfants, ouais. Comment faire ses courses, de quoi on vit, de l'air du temps, mais aussi de légumes. Alors bon, peut-être pas parler de tout, mais est-ce que tu peux nous parler entre autres, peut-être, je sais qu'il y a des pages de permaculture dans les liens de votre site, comment se passe un quotidien avec son jardin?
Et ben effectivement, nous on est en quête d'autonomie, et je pense que beaucoup de personnes qui vivent de cette façon-là, c'est l'autonomie. Et l'autonomie, elle est à différents points de vue. Merci de rappeler les principes, de parler de permaculture. Et en fait, la permaculture, alors il y a pas mal quelques définitions. Je connais pas la définition exacte, mais pour nous, en tout cas, ce que c'est comment vivre au mieux avec ces espaces pour à la fois préserver la vie et à la fois nous y intégrer. En y prenant le plus de plaisir entre guillemets. Et donc nous on a effectivement cherché à avoir le plus d'autonomie possible. Donc on a un panneau solaire avec une batterie chez nous, on a de l'eau, on est raccordé à une source, et pour nous nourrir, eh ben on a des jardins, on a fait des très jolis buts, et pour ça c'est François en fait qui est sur le terrain depuis 15 ans qui nous initie beaucoup à cela à travers des buts que l'on fait. Mais ce qui est le plus important de ce que l'on met en place ici, c'est une autre forme d'autonomie qui rejoint parfaitement celle de la permaculture, c'est celle de l'habitat. C'est qu'aujourd'hui, on s'est aperçu qu'on a beaucoup de difficultés à vivre parce que ça coûte très cher, on s'endette, on prend des crédits. Et nous, les cabanes qu'on conçoit, déjà, elles sont exclusivement faites avec les matériaux de notre terrain. Donc, c'est du bois qu'on va couper à la fin de l'hiver et qu'on replante d'ailleurs 10 fois plus. C'est de la terre, parce qu'on a une terre argileuse, et du foin, parce qu'on a de l'herbe et on fauche nos foins, pour constituer la structure de nos murs. Et à partir de là, on conçoit nos cabanes. Ensuite, c'est que de l'énergie humaine et de la technique. Il y a pas du tout d'électricité en plus dans les engins qui sont mis en place. Et on fait des belles cabanes. Nous, par exemple, on habite une très jolie cabane qui fait 30 mètres carrés. Elle nous a coûté moins de 1 000 euros. Donc, il y a aussi cette notion d'accessibilité pour tout un chacun qui souhaite vivre de cette façon-là. On pense beaucoup aux différentes crises du logement qui a toujours d'ailleurs. Hein. Et s'ajoute à cela les crises environnementales, et on veut pouvoir répondre à ces deux défis-là pour proposer aux gens de vivre décemment, parce qu'on parle évidemment d'habitat choisi, d'habitat décent, pour toutes celles et ceux. Donc on organise des transmissions une fois par mois, une semaine, on prend 8 personnes, en priorité celles qui ont des projets de vie dans la nature, et on essaie de leur transmettre un maximum de choses, notamment la construction de ces cabanes oiseaux, ce qu'on appelle ça des cabanes oiseaux, qui sont autant de nids en fait qu'on va pouvoir disséminer un peu partout et permettre aux gens qui passeront d'y dormir. C'est toute notre ambition. Et donc permettre à ces personnes de concevoir ces cabanes oiseaux pour y vivre ou pour en créer juste pour la beauté d'en faire et de laisser d'autres en profiter. Et donc moi je pense que c'est vraiment cette forme d'autonomie sur laquelle je me permets d'insister, parce que l'autonomie de l'habitat, c'est celle qui est traditionnellement la plus inaccessible pour nous. Et en fait, en nous reconnectant avec la nature à travers ce mode de vie de la désobéissance fertile, eh ben, on peut rendre aussi accessible ce type d'habitat pour les personnes qui aspirent à vivre de cette façon-là. Et d'ailleurs, pourquoi pas imaginer qu'on en construise, parce qu'on a, il y a beaucoup d'îles en région parisienne qui sont désaffectées. Et je pense là-dessus à plein de copains qui sont en train de vouloir vivre dessus, et ben pourquoi pas construire des cabanes aussi en périphérie des villes ou au cœur des villes pour montrer en fait aussi tous ces habitats, à condition évidemment d'avoir les ressources sur place nécessaires, parce que tout l'enjeu c'est de pas en amener de l'extérieur. Voilà, c'est de faire avec ce dont on dispose sur nos terrains respectifs.
Alors on redit un peu les liens pour trouver tout ce que tu viens de nous raconter et même plus. Donc le site c'est désobéissancefertile.com.
Ouais, sans accent bien sûr. Et là-dessus, voilà, il y a une carte pour voir tous les projets existants, à la fois les terrains mis à disposition, parce que si il y a des personnes qui ont des projets qui veulent avoir un terrain, il y a plein de terrains de libre aujourd'hui. Ou sinon, on peut aussi renseigner son propre projet pour que, entrer en contact avec les les personnes qui ont des terrains à nous offrir. Il y a ce site internet, il y a une page dessus qui s'appelle Nous soutenir, et en fait ça redirige vers Hello Asso, et dessus il est possible de nous faire des dons pour soutenir l'association à vivre, parce que cette association-là aussi, elle a vocation à soutenir toutes les personnes qui aujourd'hui ont des difficultés juridiques à vivre comme ça. Parce que il y a toujours des maires qui inquiètent les personnes qui habitent comme ça, et c'est coûteux en fait d'aller jusqu'au procès. Et nous on dit à toutes ces personnes-là, n'ayez pas peur, on va vous soutenir, soit on va vous apporter une aide juridique, soit on va vous aider à payer vos frais d'avocat. N'ayons pas peur de vivre comme ça. Et c'est hyper important parce que non seulement il y a quelques lois aujourd'hui dont on peut se vanter par rapport à l'habitat léger, et c'est hyper important, c'est qu'il y a une loi par rapport au STECAL depuis la loi Allure dont on parle au travers d'une vidéo, puisqu'on a une page sur YouTube. Et il y a aussi une autre loi par rapport au RNU, donc les règlements nationaux d'urbanisme, mais bon, c'est très technique. En tous les cas, il y a toujours des lois qui protègent par rapport à l'habitat léger permanent aujourd'hui. Et c'est, les cabanes s'inscrivent là-dedans. Donc, n'ayez pas peur de vivre de cette façon-là. C'est vraiment ce message que je veux directement adresser aux auditeurs et aux auditrices, parce que il y a ces lois qui nous protègent. Et surtout, on est aujourd'hui hyper nombreux, et il y a une bascule qui va s'opérer dans les autorités, parce qu'on est obligé de vivre de cette façon-là, ou en tout cas de tolérer les personnes, d'accepter les personnes qui vivent comme ça. Et donc, nous, l'association, toute une partie des fonds va servir à aider les copains qui à un moment vont rencontrer des difficultés juridiques vis-à-vis de leur installation, à condition évidemment qu'ils aient tout bien fait, qu'ils soient bien intégrés et que ce soit pas de leur fait ces problèmes-là. Et on va leur on va les aider.
L'association, et le site web ne parle pas que de problèmes, il parle aussi de plein de situations heureuses. Il y a des vidéos qui donnent envie, et ce n'est pas un projet si utopique que ça. Ça fait plusieurs années que des gens habitent comme ça. Ça fait penser au Larzac d'il y a quelques trentaines d'années. Et c'était quand même une autre époque, et peut-être qu'aujourd'hui, ben, on peut essayer de la revivre pour de vrai.
Merci Pierre, évidemment. On veut rêver, et rêver nos quotidiens, et c'est très beau que tu mettes cette place de la rêverie au cœur de ces enjeux, parce que c'est ce qui nous habite au quotidien.
Et ce n'est pas qu'une rêverie, c'est votre quotidien.
Mais une rêverie réelle, voilà. C'est-à-dire que chaque jour, quand j'ouvre les yeux, eh ben, je suis heureux, je me sens plus en vie que jamais de vivre de cette façon-là. Et c'est merveilleux. Et merci de me rappeler ça, enfin, de le dire, parce que c'est vraiment, on est chanceux de vivre de cette façon-là.
Et vous vouliez écouter, pour terminer, la chanson de Les Villards, d'Émission. On te dit merci.
Merci beaucoup, Pierre. Merci à vous et à une prochaine.
Il est interdit de salarier un homme. D'Émission à la moustache du capitaine. Elle adora l'économie qu'on lui trouve. Putain de sens.
Alors l'émission touche à sa fin, mais aussi la saison de mode d'emploi, et nous allons donner le calendrier de l'été, mais quand même une date d'actualité importante. Demain, samedi 13 juillet à 19h30, vous êtes invité à une grande bouffe au 246 boulevard Saint-Germain. Vous aussi, venez vous péter le bide avec du homard et picoler des bouteilles à 500 balles au ministère de la Transition écologique et solidaire. Il y a déjà 29 000 participants. C'est bien entendu le ministère qui invite. Les festives 2019 de la décroissance auront lieu ce week-end aussi, les 12 et 14 juillet. Elles ont lieu à Saligny-sur-Roudon, dans l'Allier. Et il y a évidemment un ensemble de réflexions, mais aussi de présentations concrètes sur d'écologie, anthropologie, organisation sociale. Si vous voulez continuer à vivre autrement, le projet de l'Alter Village Attaque a lieu pour sa 12e édition. Il aura lieu du 13 juillet au 21 à la chèvrerie de Dompierre-sur-Mer, à proximité de La Rochelle. C'est un rassemblement qui s'appuie sur les principes d'autogestion où les participants mettent en valeur des modes de vie alternatifs pendant quelques jours. C'est toujours un bon moment pour vivre autrement et aussi pour discuter et découvrir plein de nouvelles choses. Si vous voulez aussi écouter de la musique, chanter et avoir une autre façon de vivre, le 26-27 juillet à Saint-Amand-Roche-Savine, dans le Puy-de-Dôme, le festival de la Compagnie Jolie Môme, Label Rouge 2019, avec encore une fois du théâtre, des chanteurs, des chorales et différents spectacles qui peuvent vous attendre. Il y a également cet été deux événements super importants. Le Camp Climat 2019 qui a lieu à Kingersheim du 31 juillet au 11 août. Si vous n'avez jamais participé à une action ou que vous cherchez à perfectionner votre façon de militer, le Camp Climat qu'organise avec Alternatiba, les Amis de la Terre et la NV COP 21 aura lieu avec de 8 à 100 à 1000 personnes attendues en Alsace pour se former et construire ensemble les mobilisations de l'année à venir. Et évidemment, le grand rendez-vous à la fin de l'été, c'est le sommet alternatif qui aura lieu au Pays Basque contre le G7 et son monde, avec du 19 au 20 août le montage du village d'accueil, du 21, 22, 23 août le contre-sommet lui-même qui aura lieu à Hendaye au centre des congrès du FICOBA à Irun. La manifestation sera, elle, exactement le 24 août et le 25 août, il y a des actions et des rassemblements pacifiques qui aura lieu tout autour de la zone d'exclusion du G7, vu qu'ils ne sont pas au sein du monde, mais bien isolé du monde. Eh bien, ça termine notre agenda et termine notre saison. On remercie Alex et Gaël aux chroniques, Jean-Marc aux chroniques de son sous-marin, notre invité Jonathan Attias et à la technique Ludo. On termine en écoutant Entrevue Expérience, Bon Entendeur et Frédéric Bébédé.
Et merci Pierre.
Bonjour, c'est Frédéric Becbédé. Vous entendez Bon Entendeur.